Ravi. Il est 6h du matin à Paris, 4h en temps universel. Vous écoutez RFI. Et l'info internationale avec vous, Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Vincent et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, l'Iran va-t-il répondre aux frappes américaines sur son sol? Téhéran menace notamment les bases des États-Unis dans la région. Réunie à l'ONU tout à l'heure, la communauté internationale s'inquiète d'un embrasement hors de contrôle au Moyen-Orient. On est à New York dans un instant. Quelques heures après l'opération militaire américaine sur son sol, l'Iran a frappé Israël. 40 missiles qui ont fait des dégâts, notamment à Tel Aviv. Vous l'entendrez, l'État hébreu vit au rythme des alertes aériennes. L'actualité, c'est aussi la Côte d'Ivoire et le suspense entretenu par Alassane Ouattara sur sa candidature ou non à la présidentielle. Et puis du plastique transformé en paracétamol, c'est possible. Des scientifiques viennent de le découvrir, mais on est encore loin de la production à grande échelle. En plein dans le mille, voilà ce qu'écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux ce matin. 24 heures après l'impressionnante opération militaire américaine en Iran, le président est formel. Des dommages monumentaux ont été causés aux sites nucléaires iraniens. À Fordo, la montagne a changé de couleur sous l'effet des bombes américaines, mais impossible de savoir à ce stade si les installations nucléaires ont bel et bien été détruites. Désormais, c'est la question de la réplique iranienne qui se pose. Les bases américaines au Moyen-Orient sont des cibles légitimes. Voilà ce que dit un proche conseiller du guide suprême. C'est pour parler de cette riposte et de la situation au Moyen-Orient qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue tout à l'heure. L'occasion pour Antonio Guterres de mettre en garde contre un cycle sans issue de représailles. Karine Auten, deux camps se sont dessinés parmi les 15 membres du Conseil.
Devant le Conseil de sécurité réuni hier en urgence, l'ambassadeur iranien a accusé les États-Unis d'avoir lancé une guerre contre l'Iran sous des prétextes absurdes et inventés. Ses propos avaient le même écho que ceux de ses homologues russes, chinois, pakistanais et algériens, tous furieux de l'ingérence américaine avec l'opération Marteau de minuit. Les dirigeants de la France, d'Allemagne et du Royaume-Uni ont demandé à l'Iran de ne pas entreprendre d'autres actions susceptibles de déstabiliser la région, ce que leurs ambassadeurs ont répété à New York, tout en laissant entendre que l'Iran aurait dû se conformer aux règlements internationaux en ce qui concerne son programme d'enrichissement nucléaire bien plus tôt. Quelques minutes auparavant, le secrétaire général Antonio Guterres avait lui mis en garde contre un cycle sans issue de représailles et qualifié les frappes américaines de tournant dangereux. Les Nations Unies s'attendent à des répliques de proxy comme les Houthis ou des groupes armés en Irak. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, avait lui confirmé son impossibilité d'évaluer l'étendue des dégâts faits par les frappes américaines. Mais il avait aussi redit au Conseil qu'il pouvait lui demander de dépêcher de nouveaux inspecteurs sur place. Karine Auten, New York, RFI.
L'AIEA qui a aussi annoncé une réunion d'urgence aujourd'hui. Et si Donald Trump est formel quant aux dégâts infligés aux installations nucléaires iraniennes, Benjamin Netanyahou, lui, est plus mesuré. Grâce au président Trump, écrit-il, nous nous sommes rapprochés de notre objectif. Voilà ce qu'il dit. Quelques heures après l'attaque américaine, Israël a été visé par 40 missiles iraniens. Ils ont fait des dégâts, notamment au nord et au sud de Tel Aviv. Depuis le 13 juin, date du début de l'offensive israélienne contre l'Iran, il y a eu 24 morts en Israël. Les habitants vivent au rythme des alertes aériennes. Résultat, certains ressortissants étrangers sont évacués, comme 160 Français par exemple. D'autres attendent l'évacuation. C'est le cas de cette Brésilienne employée d'une agence onusienne.
Je suis en lien avec l'ambassade, mais pour l'instant, ils ne font pas grand-chose. Ils mettent notre nom sur une liste et demandent des détails sur notre lieu de résidence. Nous sommes en état d'alerte depuis si longtemps. On s'attendait à cette situation depuis un certain temps. C'est triste à dire, mais c'est devenu la norme pour nous. Vous voyez l'alerte sur votre téléphone et vous ne réagissez même pas vraiment. Parfois, si vous sentez les secousses, vous allez vous mettre à l'abri. Mais c'est devenu notre quotidien. J'ai aussi travaillé à Gaza, donc j'ai vu l'autre côté, ce qu'est une vraie situation de guerre. Et je crois que ce conflit Iran-Israël occulte le plus grand problème, celui de Gaza, qui est de moins en moins couvert. Même si vous allumez CNN, Al Jazeera ou autre, Gaza arrive très tard dans les informations. Ce n'est même plus dans les titres. Donc je crains qu'il soit oublié. D'une certaine manière, ce qu'il se passe ici semble avoir plus d'importance que là-bas.
whatever is happening here seems to have more value than what is happening on the other side.
Propos recueillis au micro RFI d'Alice Moreno. Et justement, au sujet de Gaza, Benjamin Netanyahou s'est aussi exprimé tout à l'heure. Ramener les otages prendra encore un peu de temps, a-t-il concédé. La situation au Moyen-Orient et les cartes totalement rebattues après l'intervention américaine contre l'Iran. On y revient toute la matinée sur RFI, édition spéciale autour d'Andréane Mellard et de ses invités. Rendez-vous à partir de 5h temps universel. Et d'ici là, pour toutes les réactions internationales et les derniers développements, rendez-vous sur notre direct, minute par minute, sur notre site www.rfi.fr. En bref, la guerre se poursuit aussi en Ukraine, avec une nouvelle attaque massive de drones russes contre Kiev cette nuit. Elle a fait au moins 4 morts. Les autorités locales font état d'au moins 21 blessés dans la capitale ukrainienne. C'est une première depuis la chute de Bachar al-Assad. Un terroriste de l'État islamique a mené une attaque à Damas. Au moins 22 morts dans un attentat suicide dans une église. Une tentative désespérée de saper la coexistence nationale et déstabiliser le pays. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères, le patriarcat orthodoxe de Damas, lui, appelle les autorités à assumer l'entière responsabilité de cette attaque. Sur place, les témoignages sont glaçants. Reportage à Damas, Manon Chaplin.
Les couloirs de l'hôpital Al-Mujahid sont remplis de familles désœuvrées. Par endroits, le sol est encore maculé de sang. Deux femmes courent, sortent en hurlant. Plusieurs membres de leur famille ont été tués dans l'attentat.
Ils sont tous morts. Il nous reste un seul frère et il est en train de se faire opérer à l'hôpital français.
Les deux femmes se tombent dans les bras, racontent dans un torrent de pleurs. L'assaillant a ouvert le feu sur les vitraux à l'extérieur de l'église avant de rentrer par la porte principale. Il tenait dans sa main une grenade, menaçait de la faire exploser au milieu des croyants. Leurs maris l'ont repoussé à l'extérieur avant qu'il active sa ceinture explosive.
Nos maris ont été projetés par l'explosion. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que ça? Nos maris n'avaient jamais tué, même pas une fourmi. Pourquoi? Nous sommes chrétiens, nous prions notre Dieu tous les jours. Nous ne sommes pas des mécréants. Qu'est-ce qu'ils veulent?
De l'hôpital sort un homme en soutane. Il officie à l'intérieur de l'église visée par l'attentat. Sa barbe est tachetée de sang.
Allô, Firas? Qu'est-ce qui se passe?
Au bout du téléphone, on lui annonce une mort de plus. Les larmes lui montent aux yeux.
D'accord, priez pour elle.
À l'extérieur de l'hôpital, des volontaires se pressent un à un pour donner leur sang. Un médecin distribue les informations aux passants.
Oui, à l'hôpital Al-Mujahid, il y a encore 4 personnes qui n'ont pas été identifiées.
Dans les rues de Damas, partout, la sécurité générale a été déployée. Les autorités syriennes viennent d'annoncer la responsabilité du groupe État islamique. Une attaque sanglante, un mois après le premier attentat revendiqué par le groupe terroriste. À Damas, Manon Chaplin, RFI.
Et ce matin, les réactions sont nombreuses. Indignation du côté de l'ONU. Un acte de lâcheté, dit l'émissaire américain en Syrie. Un attentat terroriste abject, estime de son côté la diplomatie française. Il est 4h08 en temps universel. Il laisse planer le suspense et entretient le flou. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara se donne encore quelques jours avant de se prononcer sur sa candidature ou non à la présidentielle. Son parti, le RHDP, l'a officiellement désigné candidat ce week-end lors du congrès au stade des Bimpé. Il faudra donc attendre avant de savoir si le président sera candidat à sa succession. Pas de quoi entamer, en tout cas, l'enthousiasme des militants du parti au pouvoir.
Nous ne sommes pas dessus, mais nous, en tant que militants, notre souhait, c'est que le président accepte d'être notre porte-flambeau aux élections du 25 octobre, parce que c'est le seul qui peut apporter la stabilité et la paix.
Il va le prononcer, on sait que c'est lui, on sait, c'est notre choix, c'est oui, c'est fini, c'est oui. Avec ce congrès-là, c'est oui.
Le RHDP a encore montré sa force, mais on est légèrement resté sur notre frein par rapport aux 8 mains de notre boussole. Mais on sait que tôt ou tard, ça va rentrer en ordre. Donc nous, avec Ado, à jamais.
C'est un discours stratégique, dans un autre cadre solennel. Après donc, cette dimension qui est purement partisane, c'est pourquoi on parle d'un parti politique, le président répondra à l'ensemble des Ivoiriens et à l'ensemble de la communauté internationale.
Actuellement, s'il doit nous laisser, ça va nous démoraliser. Donc voilà pourquoi on insiste. Qu'il soit candidat, et s'il est candidat, il va faire un coup chaos comme en 2020.
Propos recueillis par notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo. L'actualité africaine, c'est aussi le clap de fin du sommet de la CEDEAO. Hier, il aura fallu un huis clos de plus de 6 heures avant que les chefs d'État se mettent d'accord pour désigner le nouveau président de l'organisation sous-régionale. C'est Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone, qui succède à Bola Tinubu. Quels sont ses défis? Sur quel dossier est-il attendu? On en parle dans le journal de Xavier Besson dans 20 minutes. Un centre d'accueil pour demandeurs d'asile évacué sur l'île de Chios en Grèce. Un incendie menaçait les centaines de personnes qui s'y trouvaient. Ces dernières 24 heures, une cinquantaine de feux de forêt se sont déclarés à travers le pays, la plupart maîtrisés selon les pompiers. Elles sont partout, polluent les villes et les océans, et pourtant, elles sont recyclables. Les bouteilles en plastique peuvent être transformées, on le voit souvent, en jouets, en vêtements ou encore en matériaux de construction. Désormais, des scientifiques ont découvert qu'elles pouvaient aussi servir à fabriquer des médicaments. Des chercheurs de l'Université d'Édimbourg publient une étude aujourd'hui. Mais Jeanne Richard, on est encore loin de la production à grande échelle.
Dans leur expérience, les chercheurs ont pris une vieille bouteille en plastique comme on en utilise tous les jours. Et avec ce plastique, ils ont provoqué une réaction chimique dans des bactéries qui se sont alors mises à produire une molécule bien spécifique du PABA. Une molécule déjà bien connue de l'industrie cosmétique et pharmaceutique car elle entre dans la composition de crèmes solaires et de quelques médicaments. Mais ici, en s'appuyant toujours sur leurs bactéries, les scientifiques ont réussi à transformer ce PABA en paracétamol cette fois. Les auteurs de l'étude estiment que leur expérience, financée en partie par le laboratoire AstraZeneca, ouvre la voie à de nouvelles techniques pour recycler les déchets à base de plastique. Reste que l'application à grande échelle n'a rien d'évident. Plusieurs chercheurs qui n'ont pas participé à l'étude soulignent que la quantité de produits générés est très faible, bien trop pour une application industrielle.
Jeanne Richard du service environnement des RFI. Un mot de sport et de cette victoire d'Oklahoma City. Tout à l'heure en NBA face aux Indiana Pacers, premier sacre du Thunder, 103 à 91. Seul ombre au tableau, la star des Pacers, Tyrese Haliburton, s'est effondré sur un dribble. Conséquence d'une probable rupture du tendon d'Achille. Le sport, c'est aussi du football et la suite du mondial des clubs, ça se passe aux États-Unis. Ça passe facilement pour la Juventus Turin face au Wydad Casablanca, 4 buts à 1. Direction les huitièmes de finale pour l'équipe italienne. Les Espagnols du Real Madrid se rassurent face à Pachuca, victoire 3 buts à 1. Et puis toujours en sport, c'est le grand jour pour Kirsty Coventry. La Zimbabwéenne prend la tête du comité international olympique aujourd'hui. On y revient longuement dans le journal des sports avec Antoine Grenier dans tout juste 30 minutes. Pour l'heure, il est 4h12 en temps universel.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr. RFI, toute l'actualité.
Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, on revient sur les attaques iraniennes en Israël et ces 40 missiles tirés après les frappes américaines. Comment les Israéliens se protègent-ils? On appelle notre correspondant à Jérusalem. On reçoit ensuite la chanteuse Laura Prince qui viendra nous parler de son deuxième album. Et puis le Conseil Santé, on s'intéresse à la prise en charge des femmes lorsqu'elles attendent des jumeaux ou des triplés. Mais d'abord, on part pour la Californie. Cet état de l'Ouest américain a été l'épicentre de manifestations monstres contre la politique migratoire américaine, les premières de cette ampleur depuis le début du nouveau mandat de Donald Trump. Dans ce bastion démocrate, on dénonce les campagnes d'arrestation qui visent les migrants, notamment dans le secteur agricole. Là, un grand nombre de travailleurs sont sans papier et face au tour de vis voulu par Donald Trump, certains sont restés chez eux, d'autres, au contraire, continue à travailler, la peur au ventre. Reportage à Oxnard, au nord de Los Angeles, à Blajounaïdi et Bertrand Éclair.
Sous un soleil de plomb, des paysans cueillent paisiblement des fraises. Il y a 10 jours pourtant, non loin de là, une opération de police visait plusieurs migrants sans papier comme eux. Pas de quoi s'inquiéter pour ce responsable d'une ferme qui refuse de céder à ce qu'il nomme de la paranoïa.
Si nous étions inquiets, nous aurions mis des gardiens à la porte. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Il faut vivre normalement. Je déteste vivre dans la peur.
Le climat a bel et bien changé pourtant à Oxnard. Dans le restaurant familial mexicain des Pérez, Raquel, la fille, accueille beaucoup moins de clients depuis l'intervention des policiers d'ICE, la controversée agence fédérale chargée de l'immigration.
En 18 ans de présence ici, c'était la première fois que je voyais ICE dans ce secteur, dans la zone industrielle de la ville. Il y avait deux camionnettes, l'une blanche avec une ligne verte et une inscription « patrouille de protection de la frontière », et puis un autre véhicule avec aucune indication, mais une plaque d'un autre état. J'ai raconté ça à ma mère. Quand j'étais devant, là, et que je les ai vus, la façon dont ils m'ont regardé, c'était très intimidant. On voyait la haine dans leurs yeux. J'en ai eu la chair de poule. Et moi, je n'ai rien à craindre. Je suis née et j'ai vécu toute ma vie ici.
Les incidents d'Oxnard ont instillé la peur. Désormais, beaucoup de travailleurs sans papiers n'osent plus revenir au champ, ni même sortir de chez eux. Angélica, elle, explique qu'elle n'a pas le choix. RFI la joint à distance après sa journée de travail.
On va travailler parce que la peur est toujours moins forte que la nécessité. On travaille dans la chaleur, le froid, sous la pluie, agenouillé souvent. On y va dans la peur et l'anxiété. Tout ça pour que la nation puisse avoir de quoi manger sur sa table. Sans nous, les paysans, il n'y aurait rien de tout ça.
Le secteur agricole dans le comté de Ventura qui abrite Oxnard a tiré la sonnette d'alarme. Entre 25 et 45% des travailleurs agricoles auraient cessé de se présenter au travail. Abla Junaïdi, Bertrand Éclair, Los Angeles, RFI.
Reportage à retrouver aussi sur notre site RFI.fr et à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Depuis deux jours, la guerre au Moyen-Orient a donc pris une autre tournure. On en parlait dans le journal. L'implication militaire des États-Unis dans le conflit rebat totalement les cartes. Après les frappes américaines sur trois sites nucléaires en Iran, la République islamique a lancé 40 missiles sur Israël. Ils ont fait d'importants dégâts, notamment dans des quartiers du nord et du sud de Tel Aviv ce matin. On s'intéresse à la défense israélienne. Comment les habitants de l'État hébreu se protègent-ils lors des attaques de missiles? Cela passe notamment par une application pour alerter en cas de tir de projectiles ou de roquettes. Pour en parler, on vous retrouve, Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour RFI. Comment cette application marche-t-elle?
Alors imaginez que vous êtes tranquillement en train de dormir, votre téléphone est sur la table de nuit, peu importe qu'il soit en mode silencieux ou non. Et voilà que vous entendez ce premier son. Cela signifie que vous devez au plus vite vous rapprocher d'un espace sécurisé. Si vous en avez un dans votre appartement ou dans votre immeuble, eh bien c'est chose facile. Cette alerte est particulièrement importante si vous êtes à l'extérieur ou bien sur la route. Vous devez prendre vos dispositions. L'alarme a été sonnée par le commandement du front de l'intérieur de l'armée israélienne, la défense passive qui est directement intervenue sur votre téléphone. Phase suivante, l'alerte se précise. Et vous entendez ceci. Des tirs ont été détectés, c'est le moment des derniers préparatifs. Et finalement, troisième phase, eh bien ce sont les sirènes. Vous les entendez à l'extérieur, mais également sur votre téléphone. Vous pouvez également recevoir, si vous le désirez, des indications sur ce qui se passe dans d'autres localités, chez vos proches et chez vos amis.
Et sur les téléphones, Michel, nombre d'applications ont été développées pour rendre la situation plus facile à gérer.
Startup Nation oblige, les applications liées à cet état d'urgence pullulent. Certaines fournissent les mêmes services que l'application officielle, avec la possibilité de modifier les paramètres, mettre des sons d'alerte moins stressants par exemple. Toutes sortes de systèmes permettent une meilleure réception des réseaux cellulaires et Internet dans les espaces sécurisés aux murs de béton particulièrement épais. Pour les séjours de longue durée dans les abris, on peut se faire livrer automatiquement du ravitaillement et des médicaments à l'aide d'applications spécifiques. Mais parmi toutes ces applications, on peut en retenir deux. Waze, l'application de navigation Made in Israel, a ajouté en Israël ces derniers jours un nouveau service. Il suffit de faire une recherche sur le mot « abri » et l'on reçoit immédiatement la liste des espaces sécurisés les plus proches, avec dans certains cas des détails sur l'affluence. Et puis, Bait Patouar, traduction de l'hébreu, maison ouverte. Là, ce sont des particuliers qui disposent d'un abri et qui proposent d'inviter des familles ou des personnes seules, moins chanceuses, qui elles n'en possèdent pas, ou tout simplement craignent de passer sans compagnie de longs moments particulièrement anxiogène.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem, la défense israélienne et la possible riposte de l'Iran après les tirs de missiles américains. On en parle dans notre édition spéciale avec Andréane Mella, rendez-vous dans 40 minutes. On en parle aussi dans Appel sur l'actualité. Juan Gomez attend vos questions à partir de 8h10, temps universel. Il est 4h20 en temps universel. Notre invitée culture ce matin est chanteuse, originaire du Togo, et va jouer demain au New Morning, mythique salle parisienne. Laura Prince va chanter les titres de son deuxième album, ça s'appelle Adjoko, et elle en parle au micro d'Edmond Sadaka.
Bonjour Laura Prince.
Bonjour.
Alors le New Morning où vous vous apprêtez à chanter, c'est un peu un vieux rêve qui se réalise pour vous ?
Pour moi c'est une scène mythique que j'ai toujours rêvé de fouler parce que j'y ai toujours été pour voir beaucoup de grands noms. Et là d'être sur scène pour moi c'est magique en fait, donc j'ai juste hâte. Et hâte de faire découvrir l'album au public parisien et pas que, hein. Ceux qui veulent venir d'ailleurs sont bienvenus. Bamuda maku nenonye afi tipo dalale honime bamuda vonvono kuchuni.
C'est un album qui vous reconnecte à vos racines africaines parce que vous avez toujours vécu en France. Pourquoi était-ce si nécessaire ?
C'était une évidence, un besoin naturel de retourner vers la source. J'ai été un petit peu déconnectée de tout ça depuis ma naissance. Je dirais qu'il y a comme un appel des ancêtres qui s'est fait que je ne saurais même pas expliquer.
Pourquoi avoir appelé ce disque Adjoko ?
Adjoko, c'est mon prénom togolais. Et donc, du coup, c'était une manière de marquer mon appartenance. C'est comme une carte d'identité, en fait, ce prénom.
Pour cet album, vous êtes installé en immersion totale à Ouidah, au Bénin. Pourquoi avoir choisi ce lieu très chargé de symboles ?
Ouidah, c'est un port de déportation très très important en Afrique. Je crois qu'avec Gorée, c'est de là où il y a eu le plus de départs, de déportations. Pour moi, ça avait une valeur très forte. J'avais besoin de fouler cette terre en fait, qui a vu partir des âmes arrachées à leur terre. En fait.
Laura Prince, comment est venue pour vous la connexion avec le jazz ?
Sarah Vaughan, Billie Holiday, Nina Simone. Quand j'étais jeune, la première fois que j'ai écouté ces chanteuses, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de ressentir la même chose qu'elles, en fait. Juste avec une voix, transmettre tout ce background et tout ça, c'est pour moi, c'est magique.
Merci, Laura Prince.
Merci beaucoup.
Mary, a beautiful young lady, arrived on a boat, bent into West Indies. She lost her pride, not by surprise, but she came to tell her story. Mary, 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 don't be sad, your voice show us the way.
Laura Prince et son dernier album Adjoko. Elle jouera donc ce demain au New Morning à Paris.
Le conseil santé avec Suno Assurance.
Et ce matin avec Caroline Paré, on s'intéresse à la prise en charge des femmes enceintes de jumeaux ou de triplés. Et on en parle avec le docteur Abdoulaye Diop.
Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar au Sénégal. Les grossesses multiples, jumeaux ou triplées, est-ce que ça nécessite un suivi particulier ?
Oui, les grossesses multiples, du jumeau ou du triplé, nécessitent un suivi particulier. Ce sont des grossesses particulières qui sont considérées comme des grossesses pathologiques. Le corps de la femme est fait normalement pour porter un seul embryon. Et donc, quand il y a des grossesses multiples, il y a plus de chances d'avoir des complications durant la grossesse et durant l'accouchement. D'où la nécessité de bien surveiller la grossesse et d'anticiper sur les éventuelles complications qui pourraient y survenir.
Quels sont ces risques spécifiques que vous pouvez citer associés aux grossesses multiples, quelques-uns de ces risques ?
Oui, il y a beaucoup de risques associés à ces grossesses multiples. D'abord, il y a la forte probabilité d'avoir une hypertension artérielle durant ces grossesses multiples. La surdistension utérine est souvent associée lors de l'accouchement à des hémorragies ou à un risque infectieux lié à une rupture de la poche des os. L'accouchement dépendra de la position du premier bébé. Donc souvent, on peut avoir recours à une césarienne ou devoir faire des manœuvres sur le deuxième jumeau après la sortie du premier, d'où la nécessité de connaître ces manœuvres-là. Et enfin, les grossesses gemellaires sont liées à une morténatalité infantile due à une prématurité. Souvent, les jumeaux ne sont pas à terme quand ils naissent.
Merci beaucoup, docteur Abdoulaye Diop. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des infections urinaires, les facteurs favorisants. Pourquoi y a-t-il des récidives ? Nous parlerons de la prévention et de la prise en charge des cystites. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel. À toute heure, bien sûr, en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et le rendez-vous est donc pris. À tout à l'heure, Caroline Paré.
Abonnez-vous aux chaînes WhatsApp de RFI. Appel sur l'actualité, priorité santé et 8 milliards de voisins.
Bientôt 4h30 en temps universel. Avant de retrouver Xavier Besson pour l'actualité africaine, on se quitte comme tous les matins en musique. On écoute Jayana et Chaz et leur titre From Zion.
Yeah. We come from Zion. A pussy no red dog, we from Zion. Bad man plays no to get at Lion. West Indies, the Kingston, a Kayan. Man a bad man plays, bad man plays, bad man. Don't know, so we. I got them a violin, they don't know it. Squeeze it up in and them feel them. Routing everywhere me done then. We no fear them, trust me. When him other players done, don't know. Yeah, yeah. Do like we are no zanti. That is it. Shock Simon Gerun crying, watch it there. Them a drink champion, where we dead. Done with color to name, money off him make. And now the thing set, half him make. No get combined along, having the last it. Half a tooth moon, I a key body there. We come from Zion. A pussy no red dog, we from Zion. Bad man plays to get at Lion. West Indies, the Kingston, a Kayan. Man a bad man plays, bad man plays, bad man. Don't know, so we. I got them a violin, they don't know it. Squeeze it up, in and they feel them. Routing everywhere me done then. We no fear them, trust me. When him other players then don't know. Yeah, yeah. Bad man, we come from Zion. A pussy no red dog, we from Zion. Bad man plays to get at Lion. West Indies, the Kingston,
Jayana et Chaz pour refermer cette demi-heure d'actualité. Merci à Benoît Vandenbroek à la réalisation, Raphaël Rennes et Pierre Pinto à la rédaction en chef. Merci à vous surtout de votre fidélité à la Radio du Monde. Restez bien avec nous dans une minute, le retour de l'actualité africaine. Très bon réveil à l'écoute des RFI.
À l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
C'est la rencontre de deux pirates en jupon qui, au XVIIIe siècle, ont écumé les Caraïbes travestis en hommes. Anne Bonny et Mary Read, deux femmes au destin romanesque, évoquées dans un roman graphique que signent Laurent Richard et Arnaud Le Gueffleck. Ils sont nos invités.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsaire.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Ce lundi, sur RFI.
Pourquoi l'exploration, c'est de famille chez les Picards ?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Son grand-père est le premier à avoir volé dans la stratosphère, inspirant à Hergé le professeur Tournesol. Son père le premier à avoir plongé dans les abysses en bathyscaphe. Quant à Bertrand, il a réussi le premier tour du monde en avion solaire 1, 2, 3 Picard en BD.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.